faut pas croire, mais on s'amuse bien, Radio Campus.
Radio Campus 88.3. TVOD.
TVOD. Les membres de cette extraordinaire famille sont tous légèrement originaux.
Moi, j'aime pas les gens bizarres.
Ah merde, je peux pas encadrer les nazis.
Il paraît que vous avez battu des records d'audience sur 3 continents avec votre émission.
Radio Campus 88.3.
C'était vraiment très intéressant cette musique.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir chers auditeuristes, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans pour l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Vous allez donc passer une heure avec nous, et je dis bien nous car je ne suis pas toute seule. Je vous dis bonsoir, bonsoir Gob.
Bonsoir, ravi de retrouver toute l'équipe et de pouvoir vous parler de films divers et variés.
Bonsoir Claude.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Vincent.
Et bonsoir.
Eh bien, on est au complet ce soir. Juste pour un peu introduire une date pour l'agenda. Nous sommes donc à Orléans et il y a parfois des événements consacrés au cinéma, au film et tout bientôt, il y a le festival Récidive. Un festival qui est organisé tous les ans sur une thématique d'une année spécifique. C'est aussi en hommage à la première édition du Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu car la Seconde Guerre mondiale a été déclarée. Et donc c'est depuis que ce festival récidive... Enfin, je veux dire depuis... Ça fait combien d'années maintenant ce festival?
Ça fait la quatrième année, je pense.
Quatrième année?
Oui, il me semble.
La première était Cannes 39.
Oui. Cannes 39, ok. Oui, Cannes 39, voilà, la première édition, effectivement. Oui. Et donc cette année, ce festival a lieu du 23 au 29 mars et ce sera cette année sur l'année 1936. J'ai pas encore déployé tout le programme, voir un peu ce qu'ils ont prévu, mais en tout cas, il y a donc plein de projections de films autour de cette année-là, beaucoup de rencontres, conférences, beaucoup de réals, de spécialistes du cinéma qui seront présents à Orléans. Une bonne partie des projections auront lieu au Cinéma des Carmes. Il y a d'autres lieux, bon, voilà, je l'ai pas encore épluché, je pense que la prochaine fois, on pourra en parler. Vous voulez peut-être en parler?
Moi, je voulais juste faire un petit salut, un petit hommage à une dame que j'ai connue personnellement, qui était une vraie personnalité d'Orléans avec sa sœur. C'est la fille de Jean Zé, Hélène Moucharzé, qui a rejoint tout là-haut sa sœur Catherine. Voilà, c'est quelqu'un moi que j'ai eu l'occasion de côtoyer à une époque de ma vie, qui était vraiment quelqu'un de très bien, qui a participé pendant plusieurs années qui a travaillé pendant plusieurs années aux affaires culturelles à la mairie d'Orléans. Il y a déjà un certain nombre d'années de ça. Voilà, c'était quelqu'un de bien et je voulais saluer sa mémoire parce qu'elle est décédée il y a quelques jours maintenant.
Oui, je te remercie Gob, effectivement. Oui. Elle nous a malheureusement quitté.
C'est bien le signaler. Moi, je connaissais beaucoup mieux sa sœur Catherine, avec qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu en souviens, on avait fait une émission.
On avait fait une émission avec elle, la rencontre.
C'était une personne assez remarquable.
Qui a fondé la librairie Les Temps Modernes.
Oui, tout à fait.
Et on avait fait cette émission, elle nous avait beaucoup parlé de Maspero.
Oui.
Et on avait découvert une personnalité qu'on ne soupçonnait pas.
Oui, tout à fait. C'était vraiment deux femmes formidables. Hélène Moucharzé, qui elle aussi luttait contre le racisme et l'antisémitisme.
Elle a beaucoup travaillé sur la mémoire de la Shoah. Oui.
Tout à fait.
Elle
a aidé effectivement à la création du CERCI. Elle a vraiment travaillé à la mémoire de son père, donc Jean Zay, qui a été ministre. Alors à l'époque, est-ce que c'était ministre de la Culture? Non, ministre de l'Éducation nationale.
Oui.
Donc c'était en 36.
Oui.
Donc il a participé donc au Front populaire. Donc c'est un homme qui a fait avancer énormément et qui était donc d'Orléans. C'est une de nos fiertés, effectivement, d'Orléans. Et qui, avec la Seconde Guerre mondiale, a été arrêté et fusillé.
Assassiné.
Ouais.
Assassiné lâchement.
Lâchement par la milice.
Oui, tout à fait. Et n'hésitez pas à lire les livres que Jean Zay a pu écrire, notamment quand il était en prison, Souvenirs et Solitude, qui est un très beau livre, vraiment intéressant à lire sur l'enfermement. Voilà. Donc,
de plus, c'est un homme qui a fait beaucoup pour la culture. Il n'a pas fait que le Festival de Cannes. C'est bien, il a fait bien autre chose. Bien d'autres choses.
Reportez-vous à la biographie de José.
Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas les spécialistes, malheureusement. Eh bien, voilà, merci. Merci pour effectivement ce fémage de Hélène Moucharzet. Eh bien, on peut commencer les chroniques, si vous voulez bien. Et peut-être assez rapidement, comme c'est des films qu'on a déjà chroniqués, mais j'aimerais bien quand même avoir votre avis. On va commencer par Gob, tu as vu Send Help ?
Tout à fait.
Et on en avait... Vincent et Arnaud, on avait déjà parlé, si tu veux donner un peu...
Voilà, alors, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur le sujet. C'est un petit film. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un petit film. Assez plaisant. C'est vrai qu'après vous avoir écouté, les garçons, je m'attendais à quelque chose de mieux, tout à fait honnêtement. Après, oui, je suis d'accord avec vous, Rachel McAdams, elle est vraiment très bien. Il y a des choses assez drôles. Moi, je trouve que le mélange des genres se fait pas toujours de façon très efficace. Puis voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même vu, revu, rebattu, ces histoires de là, on a en l'occurrence le patron toxique, le rapport de classe, la fille qui se révèle être une sorte de super-héroïne dans son Koh-Lanta. Voilà. Bon, moi, honnêtement, j'ai trouvé 2 heures de film, franchement, j'ai à un moment, j'ai quand même trouvé le temps un petit peu long. J'étais là à chaque séquence à me dire, ouais, à un moment ça va peut-être décoller, il va peut-être se passer un truc un peu plus original, un peu plus mais non, globalement à l'arrivée, voilà, pour moi c'est un tout petit film et franchement on attend toujours le retour d'un Sam Raimi digne de ce nom. Et c'est vrai que bon, il y a des gens qui nous l'ont vendu comme une sorte de prolongement de Jusqu'en Enfer. Jusqu'en Enfer, c'était quand même autre chose.
Voilà. Ah, c'était dans le genre fantastique, surtout, en plus. Donc, c'est vrai que là, il a pris des libertés un petit peu avec autre chose. Ouais.
Merci, Gob. Il y a aussi le film, Vincent, que tu as vu, Les Dimanches.
Oui.
On en a déjà parlé. Mais...
Oui, ça fait loin déjà, mais j'ai pris quand même le temps d'aller le voir, un dimanche, justement. Et j'ai trouvé ce film très, très bien. J'ai trouvé efficace, simple surtout, et très fédérateur. On peut l'appréhender de toutes les manières. Il est certes film espagnol, mais je pense que ça pourrait être la même chose en France.
C'est pas un dimanche, c'est les dimanches.
C'est les dimanches, Los Domingos, effectivement, parce que ça se passe beaucoup les dimanches, justement, pendant le film. C'est des réunions de famille. Et en fait, voilà, on n'a pas déjà parlé de l'histoire, mais enfin, c'est une jeune adolescente, enfin, presque une adulte, qui fait le choix de rentrer dans les ordres, et elle annonce progressivement à sa famille. Ça fait un séisme, ça craque de partout, parce qu'il y a les pour et les contre, il y a toutes les antagonismes qui se révèlent. Mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bien interprété, d'abord par l'actrice principale, mais aussi tous les autres seconds couteaux du film. Univers familial, très intéressant, très bien dessiné. Des choses intrigantes et assez inattendues, comme par exemple le partage d'une succession aussi, qui se mêle à cette histoire. C'est très intéressant, avec sans spoiler totalement, mais enfin la possibilité ou pas d'exonérer un descendant de sa succession. C'est une vengeance comme une autre. Bref, mais voilà, Les Dimanches, c'est pas forcément apaisant, hein. Ça peut être violent, ça peut être aussi contemplatif. Donc il y avait tout plein de choses intéressantes dans Les Dimanches. Moi, j'ai bien aimé ce film, ouais.
Oui, je te rejoins. Donc, on rappelle Les Dimanches d'Alaouda Ruiz de Asua.
Qui a eu le prix du.
Bah oui.
Oui, au Festival de Angers.
C'est pas un premier film.
Mais ce n'est pas un premier film.
Non, mais ça, Angers, ils se permettent tout. Sur le premier film.
Oui, c'est son troisième long métrage.
Oui, c'est le troisième.
Ils ont oublié les deux premiers. Voilà. Ça peut arriver.
Le film suisse, il s'était bien gardé de dire que c'était. Parce que j'ai interviewé la réalisatrice, elle m'a dit, mais c'est mon troisième film. Ah bon? Je pensais que c'était le premier. J'avais ça trouvé tellement maîtrisé.
C'était les premiers distribués en France.
Voilà
l'explication.
Oui, c'est bon, ça.
Ils ne s'interdisent pas, ce qui n'est pas le cas d'Annonay. Eux, ils sont vraiment très à cheval, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, de leur prix qui est le mystérieux regard du Flamand Rose.
Oh oui, oui, tu m'en parleras.
Oui, pourquoi dans Les Dimanches, il y a aussi une peinture, en dehors des choix qu'elle doit être amenée, il y a une peinture du milieu familial qui est extrêmement très bien léchée, très bien arpenter.
La grand-mère, la sœur, les femmes, les, oui, toutes les dimensions de la femme, en tout cas, c'est, oui, super bien, oui, vu, hein, oui. c'est très malin.
Mais comme je dis toujours, mm-hmm, son choix ne tient qu'à une porte qui reste ouverte.
Oui, exactement, exactement, c'est vrai. Ouais.
Tout à fait.
Mais bon.
Mais on est au cinéma.
Ouais, tout à fait.
Eh bien, on enchaîne avec un autre film qu'on a vu. Pas tout. Arnaud et Vincent, vous ne l'avez pas vu. C'est le film de Mariam Toudzani, Rue Malaga. Voilà, on est donc Claude Egom, vous l'avez vu également. Et c'est un film, effectivement, j'avais hâte de voir le nouveau film de Mariam Toudzani, car son précédent, c'était Le Bleu du Caftan, qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé ici. Et Rue Malaga, c'est donc son troisième long métrage. Et.
Deuxième long métrage.
Ah non, il y a Adam.
Il y a Adam.
Son premier long métrage, c'est Adam. Le Bleu du Caftan, son deuxième. Donc le troisième, Rue Malaga. Et je commence, si vous voulez. Du coup, Mariam Toudzani, dès le départ, dans le film, elle pose le décor, je vais arriver à parler, dans un Tanger qui est cosmopolite, qui rappelle que beaucoup d'Espagnols ont immigré au Maroc dans les années 30. Et du coup, elle travaille beaucoup sur une photographie ensoleillée, chaude, qui est vraiment très belle et qui nous dévoile en fait un quartier de Tanger qui est vivant et très solidaire. Et on suit une femme, septuagénaire, qui est née au Maroc d'une famille espagnole immigrée. Et elle vit seule, en bonne santé, autonome, et tout le monde la connaît dans le quartier, c'est hyper vivant. Elle a ses habitudes dans le quartier, mais aussi chez elle. Qui débarque, sa fille trentenaire, qui va bouleverser tout cet équilibre. Et sa fille qui vit en Espagne, elle, qui a deux enfants et qui se sépare du père de ses enfants. Et du coup, entre cette mère et cette fille, Mariam Toudzani va vraiment nous embarquer dans une relation qui donc devient conflictuelle, qui est injuste. Mais ce que je trouve, c'est que ce conflit va montrer la détermination de l'une comme de l'autre, des choix. Et en fait, tout en dénonçant la difficulté d'être une mère célibataire, voilà, pour cette trentenaire, elle dénonce aussi le mépris qu'on peut avoir sur les personnes âgées, comme si le désir des personnes âgées ne comptait plus, comme s'il n'y avait plus de désir, en fait, après 70 ans. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans son film. C'est aussi comment elle montre la vieillesse, les personnes âgées, en fait, comment est-ce qu'elles ressentent et qu'on n'a pas forcément envie d'être dans un EHPAD à 70 ans. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé de voir. Voilà, il y a une autre vie, en fait. Voilà, et je trouve que il faut en voir plus, en fait, des personnages de cette femme qui est interprétée par Carmen Maura, qui est juste sublime. Elle est incroyable et que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous laisse la parole.
Bah écoute, oui, moi aussi j'étais vraiment impatient de voir le film. Moi aussi j'avais adoré le Bleu du Caftan, qui est un film tellement sensuel, tellement tactile. Et là, on retrouve les principales qualités de son cinéma. Là, j'ai trouvé qu'il y avait du coup plus d'humour. Franchement, il y a des scènes. On en parlait tout à l'heure avec Claude. Il y a des scènes d'un humour avec son amie religieuse, notamment une scène qu'on vous dévoilera pas, mais qui est à sorte de rire. Et c'est vrai que oui, c'est un film plein d'humanité. Quelle sensibilité, quelle poésie il y a dans ce cinéma-là. Franchement, c'est apaisant. C'est comme tu le disais, il y a un vrai regard sur la vieillesse. Il y a cette histoire d'amour entre ces deux personnages qui en plus devraient pas se retrouver ensemble et qui finissent par se retrouver ensemble et c'est tellement touchant. Elle filme des corps nuagés et ça passe, elle fait ça avec tellement de pudeur, d'émotion, Et puis, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'humour. Quand elle organise les matchs de foot dans son appartement, c'est tellement drôle. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Et Carmen Maura, effectivement, est vraiment exceptionnelle. On est tellement content de la retrouver. On la voit quasiment plus au cinéma depuis des années, Carmen Maura. Il faut quand même se souvenir que ça a été l'actrice fétiche de Almodovar dans tous ses films des années 80 et début des années 90. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film vraiment très touchant et on sort ému et revigoré de ce cinéma-là, franchement.
Claude ?
Bon, je vais pas répéter ce que vous avez dit. Moi, j'avais beaucoup aimé Bleu du Caftan, pour certaines raisons. Et là, c'est un film d'un grand classicisme. Ça, on peut dire, on voit l'exposition, comment elle crée son petit entourage, le marché, ses amis. Bon, ensuite, l'élément déclencheur, il arrive tout dans le premier quart du film. La fille qui a vendu l'appartement, et le film peut démarrer. Et il y a la résolution avec l'amour qu'elle va retrouver. Pour moi, c'est un film quand même qui est très jubilatoire, parce qu'elle oscille entre le drame et la comédie. Et dans la comédie, Xavier a répété les confidences qu'elle fait à son amie sœur, qui doit être une amie d'enfance, qui ne parle pas, c'est ça qui se redonne, et les séances de foot dans son appartement. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, elle manie à la fois la comédie et le ton dramatique. Bon. Ce qui est intéressant chez, comment elle s'appelle, Mariam Touzani, c'est qu'elle sait faire, j'ai toujours dit, dans Le Bleu du Caftan, c'était absolument... remarquable, hein, comment elle décrit la sexualité d'un homme rien que par des mouvements de pied à travers une paix. Moi, j'ai trouvé ça... C'est du cinéma, là. On est au cinéma. Pas besoin de mettre un temps de parole comme certains. Et là, c'est la même chose. Elle sait faire parler des images. Elle sait filmer l'intériorité. Quand on voit Carmen Maura, quand elle regarde par la fenêtre, on sait ce qu'elle pense. Rien que on sait ce qu'elle pense, rien de la voir regarder par cette fenêtre. On voit elle utilise beaucoup de plans de coupe comme ça, qui sont des moments de réflexion et à la fois de respiration dans son cinéma, parce qu'il y a un rythme assez important dans son film. Donc elle sait très bien traduire cette intériorité. Et puis, comme vous le disiez, on voit Carmen Maura, que je n'avais pas vue, moi, depuis Le Bonheur est dans le Pré.
Ah oui.
Parce qu'elle joue, effectivement, dans Le Bonheur et dans le Bonheur et dans le Pré. Donc, c'est un film, alors, bien évidemment, Xavier l'a rappelé, d'une extrême sensualité. Et il faut savoir que la maman de Mariam Touzani était espagnole, qu'elle a commencé une carrière de journaliste et qu'elle a appris le cinéma en Angleterre, et qu'elle vit avec...
Nabil Ayouch.
Nabil Ayouch, qui est un cinéaste remarquable.
Et un co-scénariste, remarquable aussi, parce qu'il travaille à quatre mains, ces deux-là. Oui.
Et notamment, je fais appel...
Un beau couple d'artistes.
Aux chevaux de Dieu, qui est un film magnifique sur l'islamisme au Maroc. Donc c'est un couple extrêmement, je veux dire, inventif. Et ce sont des vrais créatifs, et elle sait, elle, particulièrement mettre en relief cette sensualité, tout en étant dans la sensibilité et pas dans le descriptif lourd.
Tout à fait.
Bon, bah, si avec ça, vous n'y allez pas.
je vous propose d'écouter un morceau qu'on entend dans le film... à plusieurs reprises, un morceau que donc le personnage que joue Carmen Maura adore. Et donc, c'est Toda una vida de Maria Dolores Pradera. On écoute et puis on se retrouve juste après. Restez, vous êtes sur Radio Campus Orléans.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma
ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Morceau qui date de 1994, donc Toda una vida de Maria Dolores Pradera. Eh bien, on continue pour Alors on se fait un film, on continue nos chroniques et je vous propose d'écouter Claude, qui a vu Un monde merveilleux et Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris.
Oui, c'est, j'ai du mal à retenir le titre. Alors là aussi, c'est un film de...
C'est pour ça, heureusement, que je l'ai dit.
Toujours, le jeune Truby a fait plein d'émules, donc on expose d'abord. Bon, alors c'est très, très curieux, parce que c'est un garçon qui retrouve son ami d'enfance d'école. Elle ne se souvient pas de lui, mais lui se souvient bien d'elle. Et il finit par l'épouser. Et en fait, dans ce film, on voit ce qui se passe au Liban. Et on oppose, en fait, lui, qui a hérité du restaurant de son père, et qui tient à rester au Liban parce que c'est sa vie, c'est son enfance, c'est son pays. Et sa femme, qui, elle, travaille dans la finance internationale, et qui déjà, est moins attachée au Liban que lui, dans la mesure où elle fait des voyages, elle rencontre des gens de différents pays, et elle dit « mon avenir n'est pas effectivement au Liban, mais je crois que je vais demander, je crois que c'est Dubaï ». Oui, c'est Dubaï. Oui, on parle beaucoup de Dubaï, qui est un repère de brigands en général. Tous les exilés fiscaux et autres truands se retrouvent là-bas. Il y a aussi quelques gens bien, il doit y en avoir, mais bon. Et ils ont tous le drapeau français pour être apatriés, là. Hein. Ils manifestent en ce moment, hein, pour être apatriés. Donc, elle est prête à partir. Et c'est tout le film repose sur cette opposition entre l'attachement à une enfance, à un quartier, à un restaurant, et est-ce qu'on peut encore vivre au Liban ? C'est le problème que pose le film. Est-ce qu'on peut encore vivre au Liban ? Est-ce qu'on peut rester au Liban ? Est-ce qu'on peut rester, faire une vie où il faut absolument s'expatrier parce que la vie n'est plus possible ? C'est le problème posé par ce film. Donc c'est un film d'une... D'une brûlante actualité, déjà, merci Xavier, d'une brûlante actualité, déjà. Ensuite, c'est un film assez très drôle, qui est assez jubilatoire. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film, parce que c'est quand même assez dramatique.
D'accord.
Oui, oui, c'est un film. Finalement, on ne sort pas indemne en disant ouais, il y a de l'espoir. On dit
ok,
bon, pas trop d'espoir.
D'accord.
Je suis le seul à l'avoir vu.
Oui.
Oui. Bon. Mais j'ai bien aimé ce film. J'arrive pas à me souvenir du titre à chaque fois que je regarde. C'est un monde fragile et merveilleux. Bah oui, c'est un monde qui est fragile.
C'est un joli titre.
Oui. Oui. D'accord. Eh bien, Un monde fragile et merveilleux de Cyril Harris. Allez-y, mais soyez bien préparés. J'ai l'impression.
Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. On peut. Parce qu'on sent que pour lui, c'est le restaurant de son père. Il l'a depuis. Peut-être le grand-père l'avait aussi. Enfin, je veux dire, c'est un drame, quoi. C'est faire plein de deuil si jamais il laisse ce restaurant et s'il part avec ça. Ça va. Mais au milieu de l'enjeu, il y a effectivement un fils.
Mais ces films sont importants aussi. Il faut aussi montrer la réalité qui peut être dure. Je vous propose de parler d'un autre film là que Arnaud et Vincent vous avez vu. C'est Christie de David Michaud.
Ce sera le premier film sur deux films qui parlent un peu de la même chose, qui quelque part, c'est des portraits de sportifs un peu atypiques, puisqu'on parlera de Marty Suprême un peu après avec Xavier. Je pensais qu'on aurait presque parlé dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave, on va réviser. Christy, c'est tout récent, on l'a vu hier soir.
Oui,
c'est ça.
Avant-hier
peut-être, oui, je vous retourne lundi. En fait, c'est là, on est sur un film de boxe
encore.
Alors, la boxe au cinéma, c'est une histoire d'amour très longue. Et on en reparlera même avec la danse des renards prochainement.
Oui.
Alors là, on est sur une grosse industrie. On est sur un film de 2h15 qui met en évidence le personnage de Christine Martin. Moi, je ne connaissais absolument rien de cette sportive. Pour situer rapidement l'histoire, c'est une boxeuse, presque par accident, on peut dire, puisque au début des années 90... Oui, c'est ça, c'est 80. Elle se découvre une passion pour la boxe, alors que la boxe féminine, c'est quasiment inexistant aux États-Unis. C'est la boxe masculine qui prédomine. Et donc, il existe par contre des petits tournois organisés un peu partout dans les villes, même les plus reculées des États-Unis, où c'est en gros, c'est un ring ouvert et les gens peuvent s'affronter, garçons ou filles, peu importe. Elle a moins de 20 ans, elle a 14, 15 ans, 16 ans peut-être. Et elle n'y connaît rien en boxe, elle le dit au départ. Et elle ratatine en fait l'adversaire qui est beaucoup plus costaud et qui a l'air plus expérimenté qu'elle dès le début. Et de fil en aiguille, comme ça, elle se dit c'est peut-être ma carrière, c'est peut-être ce que je vais devoir faire. Et ça va effectivement se consolider. Elle va être entraînée par un professionnel qui va devenir son mari. Ils ont 20 ans d'écart, il est bien plus âgé qu'elle. Il va avoir une emprise impressionnante, et ça le film le montre extrêmement bien, c'est vraiment la pureté chimique de l'emprise masculine sur une femme dont on peut faire ce qu'on veut et qu'on peut contrôler vraiment comme un robot presque, mais peut-être pas à ce point, mais bon, c'est quand même pas loin, hein. Il a une emprise mentale impressionnante, puisqu'il va en faire la meilleure championne de boxe de tous les temps, enfin en tout cas aux États-Unis, ce qui va pas être loin d'être la réalité d'ailleurs, puisqu'elle va être quand même repérée par Don King, qui est un peu le grand pape de la boxe dans les années 90-2000, qui entraîne Tyson. Après, ce qui est génial, et Arnaud, je ne sais pas si tu es d'accord aussi là-dessus, c'est que c'est très atypique. Et pour Marty Sprem, c'est un peu pareil. C'est pas glamour du tout. C'est pas idéalisé du tout. C'est vraiment un parcours de vie chaotique. Alors, Sydney Sweeney, bien sûr, qui joue le rôle. Elle est impressionnante dans sa métamorphose, mais ça, c'est pas nouveau non plus. De Niro, il fut un temps à un peu inaugurer le concept de modification corporelle pour rentrer dans le personnage avec Raging Bull, où il avait pris presque 30 kilos pour interpréter la fin du personnage, la décrépitude. Là, c'est un peu au départ qu'elle a dû changer sa corpulence. Elle est extrêmement massive. C'est impressionnant de voir. Parce qu'en plus, moi, j'ai vu La femme de ménage peu de temps avant, enfin, un film sorti qui a fait un grand écho avec beaucoup d'entrées, etc. Elle n'est pas du tout pareille, hein, entre les deux films. Et en fait, là, elle s'est certainement beaucoup investie pour ce personnage qui est vraiment rugueux, qui est anguleux. Elle a rien, elle n'a même pas de style, parce qu'en fait, son truc, et c'est ça qui plaît aux promoteurs, ceux qui veulent organiser des combats, c'est qu'en 30 secondes, elle assomme l'autre, en fait. Il n'y a personne qui arrive à rivaliser avec elle. Ça reprend un peu le principe de Million Dollar Baby, où la boxeuse gagnait grâce à sa rapidité en fait, d'exécution et quasiment au chaos à chaque fois. Mais ce qui est fou, c'est le parallèle entre son succès de ring et sa puissance, mais sa faiblesse malheureusement à domicile, où elle se fait malmener comme jamais par le monsieur, on va dire. Et on se dit, mais pourquoi elle lui met pas un grand coup de poing en fait, pour le mettre KO? Mais c'est aussi un ancien boxeur, il est entraîneur, mais donc il est costaud aussi. Et donc, il a une emprise, encore une fois. Et donc, c'est toute une affaire comme ça. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que le parcours biopic du sport. Il y a aussi la dénonciation, bien évidemment, des messieurs toxiques, qui sont vraiment des enfoirés. Mais c'est un cas d'école, encore une fois, le mec. Et donc, pour ça, le film est efficace, franchement. Avec une dernière partie qui est aussi assez impressionnante, dont je n'ai rien dévoilé parce que voilà, j'ai laissé le suspense quand même pour ceux qui voudraient le voir.
Voilà. Oui, bon, bah, t'as ouais, pas mal.
Il a tout dit.
J'essaie de pas trop. Ouais,
enfin. Et tu donnes envie d'aller le voir.
Je sais pas. Alors, globalement, je suis assez d'accord. Les acteurs, enfin l'actrice en particulier, qui porte le film sur ses épaules. Par contre, effectivement, essayer de privilégier une VO plutôt qu'une VF.
Ah oui, alors la VF, alors, elle est horrible. VF était horrible.
Il y a pire, mais en même temps, on sentait bien en voyant à l'image la performance des acteurs qu'on aurait sûrement eu quelque chose de nettement mieux en le voyant en VO.
Ouais, c'est clair.
Donc ça, c'est clair. Par contre, sur la réalisation, j'avoue que je suis un peu.
Oui, c'est pas extraordinaire.
Enfin, un peu réserve sur la réserve parce que effectivement alors c'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que bon tu viens d'évoquer Million Dollar Baby.
Ah oui.
Bon, on n'est pas sur un rise and fall, hein, on n'est pas sur l'ascension et la chute, avec les moments d'exaltation qu'il peut y avoir dans la mise en scène de ce genre de film. Là, les combats effectivement se passent tous ou presque, je dis bien ou presque, de façon assez similaire. C'est-à-dire qu'elle colle trois rampes d'eau à son adversaire qui est
couché.
Qui est couché. Bon, alors évidemment, il va y avoir des challengers un peu plus coriaces. Il y a quand même cet effet-là. Mais du coup, on a quand même l'impression que le réalisateur, lui, il retient ses coups.
Oui,
si j'ose
c'est
dire.
Vrai, le film est bridé. Il aurait pu être plus dans la.
Il y a même dans les, dans sa façon de filmer la boxe, c'est pas ça l'idée. Mais il va pas effectivement chercher l'exaltation du spectateur. Les scènes plus dramatiques, bon, je vais effectivement pas dévoiler non plus. Il met un peu le cadre de côté pour s'éloigner un peu de la scène ou de la voir quasiment hors champ. Ce qui est aussi une technique, hein. Je suis pas contre non plus, mais là je trouve que il nous laisse un peu au seuil au seuil simplement.
Ouais, voilà. Il y a certainement de la frustration une fois qu'on a vu le film. Mais moi, même si j'ai préféré à Marty Suprême, on pourra comparer après, mais voilà.
Bon, après, c'est désagréable à voir.
J'ai pas vu le film, mais vous parlez de filmer la boxe.
Oui.
Et quand on reparlera de la danse des renards, le réalisateur me disait que c'était très très difficile
très dur,
de filmer la boxe.
C'est dur.
Et c'est ce qui est le plus long.
Ouais, oui.
C'est pour filer trois coups de poing, il faut y passer. Beaucoup, beaucoup de temps.
Bien sûr. Ah oui, c'est pour ça, c'est un choix, un gageur à chaque fois.
Oui.
Juste pour finir quand même, parce que ça pourra certainement faire aussi écho avec Marty Suprême, c'est que là pour le coup on est sur des personnages principaux, on peut pas forcément adhérer à tout, hein. ils sont un peu antipathiques quand même, c'est vrai que ce soit Marty ou Christy, c'est marrant, ils sont tous les deux assez détestables par moment, on va en parler, mais c'est pas des personnages dont on peut projeter de l'affection, sauf à certains moments bien sûr. Mais c'était intéressant de voir aussi ce comparable, c'est-à-dire voilà, c'est pas édifiant, c'est des portraits écorchés, c'est des portraits fracturés, c'est pas voilà. Moi je trouve
il y a un aspect du personnage qu'on n'a pas évoqué. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment bon. Enfin, disons que alors ça s'articule aussi après avec l'emprise de son
mari, ouais,
de son mari, c'est que à la base, alors on est effectivement au départ dans les années 90, etc. Aux États-Unis. Et elle est plutôt franchement lesbienne. Et alors c'est pas du tout accepté par l'entourage. La
Virginie
famille,
occidentale,
etc.
C'est la Virginie profonde où là les parents c'est hors de question. C'est lavage de cerveau chez des curés pour te remettre dans le droit chemin.
Et on est
la menace
dans les
de ça.
90.
Ouais, oui, fin 80, oui. Début 90.
Donc enfin voilà, mais ça joue un rôle. Hein, je pense que c'était important quand même de.
Préciser,
et en plus c'est vraiment dès le début du film on sait, donc c'est pas je dévoile pas un secret.
Non non. Donc voilà, ça rajoute à la dimension multifacette
du personnage.
Du personnage, ouais.
C'est assez important.
Christy, donc de David Michaud, parfait. Eh bien, vous en avez parlé, donc autant rebondir effectivement donc sur Marty Suprême de Josh Safdie. Gob, tu veux commencer peut-être ?
Ouais, bah écoute, moi c'est un film que j'attendais avec une certaine impatience parce que moi-même je suis pongiste depuis 32 ans maintenant.
Ah oui. Voilà,
je fais de la compétition depuis très très longtemps, donc c'est un sport qui me parle quand même un petit peu. Alors voilà, bon, on va dire les choses tout de suite. Hein. J'ai pas envie de m'étendre pendant extrêmement longtemps sur ce film. Il y a des films plus intéressants à aborder. Voilà, moi j'ai été quand même globalement très déçu par le film. Et je pense qu'il y avait un vrai sujet dans ce film, un vrai sujet qui est abordé, on va dire, dans le premier tiers et dans le dernier tiers du film, puisqu'il y a une scène de conclusion qui est vraiment très, elle, pour le compte, très réussie. Voilà, le vrai sujet, c'était le sport, le dépassement dans le sport, la commercialisation du sport. Voilà, et entre les deux, il y a un très très long film d'à peu près 2 heures qui s'égare. Qui s'égare dans une surenchère scénaristique permanente, qui devient assez rapidement étouffante. Moi, j'ai des moments, j'en pouvais plus de ces rebondissements successifs, dont plus de la moitié sont plaqués. Là, on se demande, on se dit ouais, ok, d'accord, ils ont voulu mettre un rebondissement de plus. Voilà, c'est très hystérique par moments. Voilà, moi, j'adhère pas à ce cinéma qui prend le spectateur en otage d'une espèce de surenchère permanente. Et voilà, moi, pour moi, honnêtement, si ce film-là gagne des Oscars, et ben qu'on m'explique après. Ouais. Voilà.
Non, on peut rappeler que c'est un biopic sur le pongiste Marty Reisman, et qui a grandi dans les années 50 dans un quartier populaire de New York. Mmh. Et il fut quand même plusieurs fois médaillé. Oui. J'ai vu la 58 et 1960. Mmh. Donc oui, il a un talent, et donc il a aussi écrit un livre, et c'est à partir de ce livre que oui. Josh Safdie.
Je pense que ça serait intéressant de lire le livre, en tout cas ce qui me concerne, pour voir ce qu'ils en ont gardé ou ce qu'ils ont rajouté.
Librement adapté, oui. Et alors j'ai un peu te rejoindre. Alors Timothée Chalamet, je le trouve quand même assez incroyable. Je trouve que c'est un bon choix. Je le trouve très doué dans ce dans ce rôle qu'il incarne, je trouve, à la perfection. Mmh. Et voilà, il me fait oublier tous les autres personnages qu'il a pu jouer dans d'autres films. Pour ça, je le trouve assez incroyable. Et il a eu d'ailleurs un Golden Globe, oui, si je ne me trompe pas. Et je trouve que c'est plutôt mérité. On est effectivement dans un film avec un montage très vif, agressif. Enfin, ça enchaîne les embrouilles. Et c'est vrai que ça... Les embrouilles, et il met dans le pétrin quand même pas mal de gens autour de lui. Et du coup, pour moi, ce Marty suprême, pour moi, c'est un film sur l'égocentrisme en fait d'une Amérique qui va jusqu'au bout de son rêve, quitte à sacrifier en fait les personnes qui l'entourent. Et en fait, dans ce film, qui finalement, il arrive à la fin à être ému devant un nouveau-né, alors qu'il n'a même pas assisté à l'accouchement, trop occupé à aller au Japon.
Ça spoil la fin, c'est pas grave. Pardon,
mais en fait, je suis obligée parce qu'on parle toujours de la scène de
fin. Oui, il faut la décrire. Non, mais c'est
chiale.
Bien.
Ouais. Ouais, mais enfin, mais pour moi, c'est pas du tout. Alors tout le monde dit, oh, mais il s'en remet. Enfin, voilà, peut-être qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais à la fin, il pleure. Mmh. Donc il se remet en question. Mais non, en fait. Mais là, il pleure. Mais demain, il est appelé à partir je ne sais pas où. Mais
il claquera la porte en 30 secondes,
mais
je pense.
Évidemment, en fait. Je trouve que c'est horrible. C'est un personnage qui est détestable.
Exactement.
Enfin, je l'ai détesté. Je l'ai trouvé. Mais ouais. En plus, j'ai trouvé que le film avait beaucoup de longueur d'enchaîner, effectivement, comme tu dis, à toutes ces péripéties. J'en avais juste marre, en fait. Je voulais plus le voir. Hein.
Ouais, alors là, je suis absolument d'accord à 100%, 110% avec ce que vous dites. Et pour moi, il y a une séquence emblématique de l'ennui total et qui sert à rien dans ce film, qui est dans le milieu. Hein. C'est la longue séquence interminable de bluff au ping-pong dans le bar où il arnaque les autres. Mais ça sert à rien. Et ça dure 25 minutes ou un truc comme ça. Ça ne sert à rien. Et ce qu'il y a avant et après, pareil. Effectivement, il y a le début, l'ouverture qui, à la rigueur, est sauvable par sa dynamique, par son énergie.
Mais comment on peut arnaquer les gens au ping-pong?
Ouais, bah parce qu'il croit, il fait croire qu'il ne sait pas jouer en fait. Il passe par un tocard. En fait, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur joueur des États-Unis. Mais il a, quand il n'est pas apprêté pour ça, il arnaque d'autres joueurs qui jouent un peu à la baballe en fait.
Dans des bars. Ouais.
Et ça se joue au billet.
C'est un jour de poker.
Quoi. Ouais, exactement. Alors il joue avec un autre mec qui est complice. Ils font semblant de mal au billard. Ils font semblant de mal jouer. Puis après, évidemment, il rétame à fond parce qu'il c'est le meilleur joueur. Quoi. Donc voilà, c'est un bluff. Mais
parce qu'il y a de l'argent en cours.
Il y a de l'argent, voilà, on joue au coup en fait. Oui. Mais ça sert à rien de rien. Et je regardais ma montre et je me disais, mais sans déconner, c'est trop, il faut arrêter là. Oui. Et donc voilà, sur 2h30, ouais, clairement, il y a une heure et demie qui peut être intéressante. Original, hein, franchement, l'entrée en matière, ouais, c'est vrai que vous ne savez pas l'histoire, moi je ne connaissais pas l'histoire. Mais clairement, c'est. Alors après, la photo de Darius Conchi, classos, hein, visuellement, la forme, formellement, ça marche. Mais non, le scénar, ou du moins le romanesque du truc, on peut l'oublier, c'est lourdingue et tout. Moi j'étais déçu par ça. Ça, effectivement, je m'attendais mieux que ça. Voilà.
Donc, globalement, vous pouvez éviter le film.
Il fait son chemin déjà.
Ah oui, il fait bien son chemin.
Il fait son chemin déjà.
Oui, ouais. Grâce à Timothée Chalamet aussi.
Ah, mais il y a eu un forcing de fou. Il a fait un travail de merchandising aussi indécent, peut-être, que son personnage dans le film. Il y a même une confusion des deux.
C'est raccord.
Il est passé partout.
Et il a, voilà. Et quelque part, ouais, c'est. Voilà, en son de la gloire.
Tu l'as pas vu, Arnaud ?
Non.
Ah non.
Non, je.
À la fin, il pleure devant un môme.
Oui, mais d'accord. Non, j'avais pas très envie.
Et tu es censé être ému aussi dans la salle. Ça marche pas pour pareil. Voilà.
On fait une courte pause musicale avant d'enchaîner avec la dernière partie de l'émission. Je continue avec Rue Malaga et la bande originale, cette fois composée par Freya Hardé, qui est une compositrice allemande. On va écouter le morceau Free Again et on se retrouve bien sûr après, toujours sur Radio Campus Orléans. Toujours sur Radio Campus Orléans, on vient d'écouter le morceau Free Again de Freya Hardé, donc la bande originale du film Rue Malaga de Mariam Touzani. Et donc, il nous reste un petit peu de temps pour parler des derniers films et par exemple, Aucun autre choix de Park Chan-wook. Claude, tu l'as vu, il me semble.
Tu avais été déçu.
Tu l'avais déjà évoqué, ouais. Claude.
Oui, semble-t-il. Mais je vous laisse.
Ah, tu en avais déjà parlé.
Tu en as parlé, Claude.
Je sais que Claude, toi, tu t'avais.
Mélange des gens, j'aime pas le mélange des gens.
Vas-y.
Non, j'ai dit.
J'ai du mal avec le mélange des gens.
D'abord, c'est un hommage pour moi à Costa Gravas. D'ailleurs, il le dit très ouvertement au début. Et je crois que le film de Costa Gravas s'appelait Le Couperet.
Le Couperet, il reprenait le titre du roman.
Le Couperet, qui était un film avec. Qui était très. Le premier Gravas, un des premiers Costa Gravas qui était.
Gavras.
Comment ?
Gavras.
Costa Gravas, oui. Qui était très, très. Bon, bref. Donc, moi, ce qui me gêne ici, c'est. Il y a une exposition d'abord qui est de Famille Heureuse, Unie. Alors, ça traîne, putain, mais ça on avait compris depuis très longtemps qu'ils étaient heureux, que ça se passait bien dans la famille, et on aurait pu faire tout le film là-dessus. Hein. Moi, ça m'a, par moments, beaucoup excédé, parce qu'on peut retirer quasiment 10 minutes là. Bon, vous allez me démontrer le contraire, je pense. Et j'ai pas forcément raison là, sur ce plan. Mais moi, j'ai mal cette exposition trop longue, j'ai mal vécu. Et après, moi, ce qui me ça part un peu dans tous les sens. Et surtout, c'est le ton. Il y a des changements de ton. Alors, il paraît que c'est ce qui fait la filmographie de Park Chan-wook. Il paraît que c'est ça. C'est les changements de ton et cette façon qu'il a de mélanger les tons. Moi, je suis peu réceptif à ces changements de ton. Autant dans Rue Malaga, à la fois dans la comédie, à la fois dans le drame, mais je m'y perds pas. Alors que là, je suis perdu. Bon, et puis c'est un film qui devrait être plus serré. Putain, ça se délaye. On peut resserrer les films. Il y a quand même une intention dans ce film. Bon, s'il a une intention, surtout quand on a vu le couperet avant, hein, s'il a une intention... On peut peut-être plus centrer sur quelle était son intention, quelle était surtout du personnage principal, qui a un but, lui. Il sait ce qu'il veut. Donc, moi, le réalisateur se perd un peu dans ce film. Il fallait absolument plus concentrer ce film, travailler plus pour moi la dramaturgie. Maintenant, je peux me tromper.
Gob, toi, t'en as pensé quoi ?
Écoute, c'est pas le plus grand Park Chan-wook. Hein. On peut pas, par exemple, comparer avec Mademoiselle, qui était un film absolument immense.
Ah oui,
voilà, mais bon, ou même le dernier, Decision to Live, qui était un film incroyable au niveau de la mise en scène. Après, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Claude, sur l'exposition, parce que c'est vrai qu'elle est très longue, mais pour moi, effectivement, c'est la temporalité des films asiatiques est pas tout à fait la même que celle des films occidentaux. Donc, il faut aussi intégrer ça. Et je pense que il fait cette très longue exposition parce que déjà, c'est très important dans leur culture, dans la culture asiatique en général, dans la culture coréenne en particulier, ça tourne très souvent autour de ces histoires de famille, comme dans certains films japonais aussi. Et donc, il prend son temps parce que c'est justement pour arriver à ce moment où moi je trouve qu'il y a une scène formidable qui est celle du premier meurtre où c'est pratiquement le type et il est même pas à l'origine, c'est le premier meurtre lui échappe quasiment, et en fait effectivement tu parlais de ces fameuses ruptures de ton, et là il va nous faire effectivement ce qu'il a fait dans tous ses films par Chan-wook, une espèce de crescendo dans le crime avec un type qui est presque pas l'acteur de ses propres crimes, et moi je trouve que tout l'intérêt du film pour moi est là. Et puis il y a la mise en scène, voilà, ça reste un réalisateur extrêmement brillant, moi je trouve. Il y a de vraies idées de mise en scène tout le temps, et ça c'est à l'image de tous ses autres films. Et donc voilà, moi c'est clair, c'est pas un très grand Park Chan-wook, ça restera pas dans l'histoire du cinéma comme on peut le faire Mademoiselle ou Old Boy, mais c'est quand même, pour moi c'est quand même un film plutôt réussi, voilà.
Mais c'est vrai que... Pour moi, un moment on frise Guignol, hein.
En fait, moi, j'ai pensé à Parasite de Bong Joon-ho.
La famille est très importante.
Avec la famille qui est effectivement très importante aussi. Et je trouve qu'il y avait un côté burlesque dans les scènes de meurtre, en fait. Il y a un côté assez surprenant. Et du coup, dans aucun autre choix, il dénonce quand même la cruauté de notre société et notre société libérale et capitaliste, en fait. Enfin, il dévoile aussi que le monde du travail rend fou, en fait. C'est ça aussi, c'est pourquoi il veut tuer. C'est que voilà, il doit, pour garder ce niveau de vie, il faut qu'il trouve un autre travail. Et donc, bon, c'est le travail qui rend fou, et du coup, il organise le pire pour trouver un emploi. Donc c'est vrai, je peux comprendre que ça peut surprendre. Et oui, je te rejoins, Gob. Effectivement, le cinéma coréen a ses aspects aussi assez surprenants. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, voilà, de voir aussi d'autres regards sur la famille ou sur la société.
Oh, ça, je veux bien admettre que c'est culturel, l'exposition. Ça, je l'admets. Mais quand même, il y a des moments où on frise le guignol. Hein.
C'est plus burlesque. C'est
burlesque guignol, et guignol, c'est pas la même chose. Hein.
Non, c'est pas la même chose, mais justement.
Bon, c'est ton regard.
c'est mon regard, voilà.
Donc, c'était Aucun autre choix de Park Chan-wook. Il me semble qu'il reste encore quelques films, il nous reste quelques minutes, alors peut-être rapidement. Gob, tu as peut-être une préférence, parce qu'il reste 5 cm
seconde. Oui, je vais évoquer le film japonais parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un film d'animation, un film de Makoto Shinkai, qui a fait des films comme Your Name, Suzume, Les Enfants du Temps, donc qui est des gros succès de l'animation japonaise et d'excellents films. Et donc, 5 cm par seconde, à l'origine, c'est un moyen métrage d'animation qui n'était pas sorti en salle à l'époque et qui est passé. Moi, je l'avais vu sur une chaîne cryptée bien connue, voilà. Donc c'est là, ils ont en fait étiré le scénario et pour en faire un film de 2 heures, voilà. Moi j'ai trouvé que c'était un très joli film, très poétique. C'est une histoire d'amour contrariée, on va dire, entre deux personnes qui se sont connues adolescentes, qui ont une passion commune pour l'espace et qui vont sans arrêt, bon, après c'est très classique, ils vont sans arrêt ne pas arriver à se retrouver, mais ça fonctionne très bien. Il y a une photographie magnifique, il y a de très belles scènes dans cet évitement amoureux là. Franchement c'est très frais, très poétique.
C'est un animé, hein, d'accord.
C'est un film live. Ouais, et bon, moi j'ai passé un très joli moment avec ce film.
Moi je voudrais vous parler d'un film qui a d'ailleurs été le grand prix du festival d'Annonay, qui s'appelle Le mystérieux regard du flamant rose.
Oh, tu l'as dit en entier, bravo.
Oui, j'ai vu en entier.
Tu peux redire le titre de l'autre film que tu arrives à faire.
Le mystérieux regard du flamant rose. Oui. Alors, j'ai beaucoup de mal à retenir le titre. Alors, c'est un film, on est dans les années Sida, au Chili, et il y a deux communautés, une communauté extrêmement traditionnelle de mineurs et une communauté plus excentrique. Et quand arrive effectivement le Sida, eh bien, rapportez-vous au Covid, il suffit que vous ayez quelqu'un de différent à côté de vous, c'est bien évident, c'est la différence qu'apporte le sida. Et le sida, puisque là on parle du sida, souvenez-vous de ce qu'on a dit sur le Covid. Dans ce film, le fantasme tient lieu de mise en scène. Alors c'est un film qui frise parfois le fantastique, et surtout on est beaucoup dans la métaphore. Et moi j'aime beaucoup les films où il y a des métaphores, et là il excelle particulièrement, ce réalisateur, dans cette mise en scène, et on voit tous les fantasmes qui tournent autour de cette maladie, jusqu'à temps qu'une dame, d'une façon très crue, explique à la petite fille qui est censée dire le sida s'est donné, cette maladie, parce qu'elle ne parle pas du sida, s'est donné comme ça, point, c'est tout, et là tout est remis d'aplomb et à zéro. Donc c'est quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, il y a deux communautés, il y en a une qui est très différente de vous, de par de sa façon de vivre, de par les morts, c'est pas vous, ben bien évident, ça ne peut être qu'elle qui a apporté la maladie. Et ça, c'est, j'aime bien moi les films qui parlent de la différence et des différents, à qui on fait tout supporter.
Très
et là,
bien.
C'est le câble. Moi, je trouve que c'est... Annona, il ne se trompe pas, en général, hein, dans les films qui récompensent. Ce n'est pas Angers, je suis désolé.
Ah, c'est un film récompensé, au festival.
Ah, oui, c'est le Grand Prix. C'est le Grand Prix d'Annona.
Il est à l'affiche en ce moment.
Je l'ai vu au Carme.
D'accord.
Je ne sais pas s'il a fait des entrées, ça, c'est autre chose.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat, et il n'y a pas beaucoup de films qui font des entrées.
Non, ça, c'est... Malheureusement. Ça devient une denrée rare.
Donc, puis c'est un film où il y a beaucoup de fantastique. Moi j'aime bien, c'est à voir.
Redis le nom du réalisateur.
Je connais pas, j'ai pas relevé son nom. C'est un Chilien.
On va le retrouver pour la prochaine émission.
Qui est très à l'aise dans la métaphore. Et c'est curieux parce que la métaphore, et c'est pas Xavier qui va me contredire, c'est en général l'apanage des gens de l'Est.
Et c'est qui est donc réalisé par Diego Céspedes.
Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il
mais
a
ça
fait.
Ça se pratique aussi beaucoup en Amérique du Sud.
Ouais. Je sais pas ce qu'il a fait avant, ce garçon, mais ce qu'il a fait là, en tous les cas, pour moi, c'est prometteur.
Et brillant.
On est à la fin de l'émission. Du coup, tu voulais peut-être parler de Gob de Maigret. T'as
oui,
vu
bah, le... je veux dire, en 30 secondes, un nouveau Maigret. C'est Denis Podalydès qui s'y colle cette fois-ci, après beaucoup d'interprètes prestigieux. Et voilà, c'est un Maigret un petit peu modernisé. L'action se passe à la fin des années 90, début des années 2000. Il y a un petit effet vraiment bien amené entre Podalydès qui a le costume du Maigret qu'on a toujours connu des années 40-50 et l'intrigue un peu modernisée. Après, voilà, c'est pas un grand film, mais c'est un vrai plaisir d'acteur parce que il a convoqué pour le film Bonitzer toute une série d'acteurs de théâtre, dont Anne Alvaro, qu'on avait quasiment pas revu depuis Le Goût des Autres de Jaoui. Et elle avait été césarisée à l'époque pour le film. Et c'est un vrai, vrai plaisir d'acteur. On a l'impression d'être devant une très réussie pièce de théâtre. Et on passe un moment très agréable.
D'accord. Maigret, le mort amoureux, donc
ouais,
de Pascal Bonitzer.
Oui, moi j'ai vu, Bonitzer. C'est un film. Rien à dire, quoi. C'est bien ficelé, c'est,
merci.
C'est très épuré, c'est, bon, rien à dire.
Merci beaucoup pour cette émission. Voilà,
très dense.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les Césars. Mais moi, ça ne me gêne pas beaucoup qu'on n'en parle pas.
Si, on en parlera la prochaine fois.
On en parlera dans 15 jours.
Et, oui,
il vient de dire que ça
ne
gênait pas qu'on en parle pas.